feel good. I knew that I would not. So good, so good, I got you.
I feel good sur RCN, Christophe Chevardet.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans I Feel Good, 30 minutes pour profiter des ondes positives d'un ou d'une invitée qui vient nous partager par son engagement professionnel, associatif, amical, familial, quelque chose qui fait bouger sa vie, qui fait bouger un petit peu celle des autres et puis qui nous donne envie de bouger à nous aussi. Alors lui, il n'en manque pas d'énergie, il n'en manque pas de générosité, j'ai peur de le flatter, alors je ne vais pas le faire comme ça, mais l'envie de faire avec les autres, on va dire, voilà. Madame, mademoiselle, messieurs, il est infirmier libéral et très libéré, Olivier Abel.
So good, so good, I got you.
Olivier Babel, bonjour.
Bonjour à toutes et tous.
Ouais, libéral, c'est ta fonction, c'est ton boulot, c'est ton
c'est
job.
Ça,
tu agis comme infirmier dans un secteur de Nancy.
Ouais, sur Jarville, enfin sur la commune de Jarville et plus précisément sur le quartier de la Californie.
Quand on a besoin d'un soin, on cherche un cabinet, on peut tomber sur le tien.
C'est ça.
Et puis libéré, parce que de temps en temps, tu libères aussi tes autres énergies pour donner de ton temps, un peu de ton envie, de ton savoir, pour faire porter des projets. Alors c'est parti de la santé, c'est parti du soin.
C'est ça.
C'est parti, déjà on va commencer par une date importante dans ta vie, c'est celle du Covid.
Oui.
Si on parle des projets libérés,
c'est ça.
C'est le Covid qui a libéré.
Complètement.
Alors, face à quoi? Quel était ton constat? Quel était ton.
En fait,
ton départ
juste après le confinement, c'est flou, hein, parce que tout ça est arrivé très très vite, mais au moment de l'arrivée du Covid en France et plus précisément dans le Grand Est, parce que c'est par là que ça a commencé, les informations nous noyaient d'informations. Très négative et on était vraiment inquiet. Moi, je me suis dit, mais mince, finalement, on est dans un cabinet de groupe, on est comme à l'image de tous les cabinets de Nancy, on est très peu. Et je me suis dit, mais statistiquement, il y a de fortes chances qu'une grande majorité du cabinet soit touchée par le Covid. Comment on va faire pour continuer les soins? Donc, le premier réflexe, comme il y avait déjà une belle énergie sur Jarville, la commune et l'ensemble des cabinets infirmiers du secteur, ça a été de prendre contact avec eux et de leur proposer de s'apporter une sorte de solidarité en cas de maladie. C'est de dire, si jamais beaucoup d'entre nous sont malades, est-ce qu'on pourrait pas réfléchir à mutualiser les tournées pour pouvoir être sûr de prendre en charge les patients et puis de ne pas se retrouver sans ressources, puisque nous sommes libéraux avant tout, quoi. Et puis, ça a vite migré sur se dire, mais finalement, c'est les patients qui vont être impactés. On va avoir des patients dits infectés et des patients protégés. Donc, peut-être qu'il faudrait s'organiser pour proposer une prise en charge de ces patients-là sur une tournée spécifique. Donc, on a décidé de travailler en commun, ce qui est plutôt inédit pour des professions libérales, et de se dire, sur nos jours de repos, on organise un roulement bis et on propose une tournée dite salle de patients sous Covid pour qu'on puisse protéger les autres patients et puis continuer à porter les soins aux patients qui seraient, eux, bloqués à domicile avec le Covid.
Et donc ça, c'est parti de coups de fil de collègues qui avaient envie d'essayer de donner un peu de
c'est ça.
Cohérence
on s'est retrouvé...
à leur action, protection aussi un peu de
ouais.
Tout le monde. Quoi.
On s'est retrouvé en mode à la rue, chacun à 15 mètres de différent avec nos masques et à se dire comment on fait. Donc on a vite donné nos disponibilités et puis bloqué un planning avec un roulement en se disant il y aura peut-être au départ zéro patient à surveiller, à prendre en charge et puis ça va monter graduellement. Donc on a mis en ligne une permanence, on a contacté les instances qui à l'époque étaient un petit peu en mode affolé, mais en tout cas on a fait cette proposition là et puis on s'est tourné, la première rencontre ça a été un maire, il faut le dire, le maire de Jarville, Jean-Pierre Urpeau, qu'on a contacté avec cette proposition là qui nous a tout de suite répondu favorablement en disant moi je vous mets un certain nombre de moyens, et ça a été notamment par exemple la mise à disposition d'un véhicule spécifique pour contenir du matériel, des EPI, les fameux blouses, etc., pour pouvoir assurer cette tournée. Et lui était satisfait de pouvoir faire cette proposition-là en proximité sur les gens de Jarville. Et voilà, ça a commencé comme ça, une grande solidarité. Ensuite, ça a découlé sur un appel au secours sur les réseaux sociaux, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de blouse, il n'y avait rien du tout. Donc, il fallait récupérer tous ces outils-là dans des entreprises qui fermaient, entreprises de nettoyage, grandes surfaces, hôtels, etc. Et c'est là qu'a commencé, je dirais, ce recours possible à la chaîne de la solidarité et à appeler au secours pour avoir du matériel et s'organiser différemment.
Je laisse un petit peu de temps pour raconter parce qu'on dit tellement que le Covid a plomber une partie de la société, ce qui est de fait a contribué quand même à un certain repli, hein, on est d'accord. Mmh. Et en même temps, il a permis de libérer des énergies et des forces étonnantes. Je pense à toi, mais à ce micro, on avait Lisette qui est venue parler de son bazar. Oui. Voilà, bah, le bazar, c'est c'est né des gilets jaunes, le bazar, mais c'est ces formes où on est face à des souffrances qui peuvent permettre aussi d'enclencher des mouvements
Alors ça peut être peut-être choquant même pour certains auditeurs, mais ouais. Je sais que le Covid a heurté, a bouleversé de plein fouet tout le monde, mais pour nous, et alors je ne veux pas parler au nom de tout le monde, mais pour une grande partie des professionnels, et pour moi en particulier, ça a été révélateur, et ça a été une époque formidable et qui a complètement bouleversé notre mode d'exercice, ma vie professionnelle, mes ambitions professionnelles et les ambitions des gens qui étaient autour de nous dans cette équipe. Il y a plein de gens qui sont complètement, qui ont été bouleversés, mais au sens positif du terme. Hein. Tu parlais de Lisette tout à l'heure. Lisette, c'est une des belles rencontres, alors pas directement du Covid, mais après, dans ce qui nous amènera sur la solidarité. C'est quelqu'un qui... Le Bazar, c'est quelqu'un qui... C'est une association qui participe pleinement à nos projets actuels et qui nous permet, et avec qui on est en échange constant, et comme plein d'autres assos ou dispositifs de la solidarité sur la métropole. Ouais.
Et on va voir, c'est à la fois des allées et des retours. Je connais un tout petit peu l'exemple Bazar, c'est quand vous avez besoin, ils font signe, quand eux ont besoin, ils font signe. Quoi. Voilà,
exactement.
C'est, et c'est ces formes un peu d'interaction dans la solidarité qui sont étonnantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de solidarité? Parce qu'on était donc à cette date importante, qui est un point de départ, et je voulais qu'on prenne quand même un peu de temps pour l'expliquer, ce Covid qui a fait réfléchir, faire un pas de côté, réfléchir pour agir autrement. Et puis ça s'est prolongé dans de la solidarité. Aujourd'hui, cette sensibilisation à la santé, cette action vers la santé, vous emmène assez loin dans la solidarité et dans la proposition. La proposition s'est structurée autour d'une association, les Bruits du Cœur.
Oui.
Donc ça, c'est l'association qui rassemble beaucoup de professionnels de santé au départ.
Oui.
Pourquoi ça évolue vers des nouvelles formes de solidarité? Ça va jusqu'à faire un food truck. Faire un food truck.
Ouais.
Alors, quel est le lien entre le food truck, les professionnels de santé et les Bruits du Cœur? Monsieur Babel, vous avez 2 minutes 30.
Ah oh, j'aurais dit 2 heures, mais bon. Alors, les professionnels de santé, pourquoi? Parce que c'est né, je vous l'ai dit, des centres de vaccination, donc énormément de professionnels de santé de tout poil, infirmiers, médecins, pharmaciens, dentistes, etc. Des étudiants aussi qui nous ont amené plein de choses, mais aussi des bénévoles, retraités, actifs, etc. Mais beaucoup de professionnels de santé, évidemment. On a travaillé pratiquement un an et demi ensemble. On a glissé de Covid à Monkeypox. On s'est rodé. On a fait de belles choses. Notre spécificité à nous, centre de vaccination, il y en a eu plusieurs sur Nancy, mais enfin sur la métropole. Nous, on a commencé à Gerville, ensuite Écourt, et puis pour terminer au Grand Nancy. Donc, ça a été une équipe qui a éprouvé pas mal de dispositifs ensemble. On a dégagé cette belle énergie, on a appris à se côtoyer, on a su faire des choses ensemble. On a rencontré beaucoup d'interlocuteurs différents, médecins du monde, mais bien d'autres aussi, qui nous ont sensibilisés, parce que notre spécificité, c'est de faire des allées vers, c'est d'aller vers les personnes que les grands centres de vaccination, les vaccinodromes, auraient oubliés, ou vers qui ces patients-là ne seraient pas allés. Il fallait leur proposer quelque chose de à la carte, de souple, qui tenait compte de leur mode de vie, de leurs impératifs. Et c'est comme ça, avec Médecins du Monde, qu'on s'est retrouvés à vacciner à la rue. Les gens, soit SDF, hein, ou des gens issus de lieux de vie complètement différents et oubliés du grand système. Donc c'est ce qui nous a amené à travailler avec des professionnels de santé sur un public spécifique en situation de précarité. Et puis, à l'issue de cette vaccination-là, on avait ce projet qui nous trottait dans la tête. Hein, si vous voulez, on s'est rendu compte, et notamment, je le redis, avec Médecins du Monde, que peut-être que nous, en tant que professionnels de santé, on oubliait ces gens-là dans notre exercice quotidien. Finalement, on les avait rencontrés ou re-rencontrés à l'occasion d'une crise sanitaire spécifique, mais dans notre exercice quotidien, c'était des gens qui passaient à la trappe ou qu'on, parfois, on ne prenait pas en charge. Donc, on s'était dit, un jour, quand on sera grand, peut-être, on essaiera de monter un dispositif, si possible, à l'échelle de la métropole, dans la solidarité et la précarité. Et puis,
on a vite grandi, en fait.
Voilà, on a vite grandi parce qu'on était rattrapé par une proposition, en tout cas par la vie, avec la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, qui est arrivée quasiment à la toute fin de la vaccination. Et comme on avait une belle interaction avec la métropole, la mairie de Nancy, on nous a proposé d'aller participer au rapatriement sanitaire des réfugiés ukrainiens de Lublin, en Pologne, vers Nancy.
Alors avant d'aller sur l'Ukraine, qui est un autre pan aussi, mais on voit bien que tout ça est en lien, vous faites à la fois du local et de l'international, enfin voilà, c'est une vision assez humaniste de l'homme dans son intégralité. Je reste sur l'exemple du food truck, qui est quand même la santé est essentielle. Pour autant, avant de parler de santé, il faut établir des liens, il faut établir des connexions. Aujourd'hui, pourtant, on a tout ce qu'il faut pour établir les liens et les connexions. Et qu'est-ce qui fait qu'on ait besoin de ce food truck ?
Ah, y a deux mondes qui se rencontrent très rarement. C'est le monde du soin, dont je fais partie en tant qu'infirmier libéral, et puis le monde du social, du sanitaire social.
Et pourtant,
on devrait se rencontrer plus facilement, mais voilà, c'est encore deux mondes qui ont du mal à se rencontrer. Et on a touché du doigt, je le redis, médecin du monde, tout ça, mais après, on a souhaité faire des permanences de soins, par exemple au 34, l'accueil de jour.
Il faut préciser de ce que c'est, oui.
Ah oui, le 34 de la rue des Fabriques, c'est l'accueil de jour pour les personnes en situation de précarité, les personnes à la rue, qui est un dispositif de l'ARS Pierre Vivier, où les gens passent se faire à manger, prendre une douche, faire du linge. Donc on avait proposé, pour libérer un peu de temps d'action à Médecins du Monde, nous, profession libérale, d'assurer une permanence de soins. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, tout doucement, qu'on a appris déjà à connaître ce public. Avec la bienveillance de l'ARS et de Médecins du Monde, on s'est un petit peu formé à l'accueil de ces personnes-là, le discours, leur mode de vie.
Autant le soin, c'était, vous saviez de quoi vous parliez, autant pratiquer un soin sur des personnes en vulnérabilité, en fragilité, c'est encore...
C'est autre chose,
c'est encore une
il
autre
faut
approche,
connaître leur parcours de vie, leur déambulation dans la métropole, il faut connaître un petit peu ce que leur statut leur impose, dormir un jour à un endroit, un autre jour à un autre, parfois à la rue, souvent à la rue. N'être jamais au même endroit, ça veut dire ne pas pouvoir recourir à un médecin de proximité ou un cabinet infirmier. Quand vous êtes suivi par un cabinet infirmier, il faut avoir un domicile stable, sinon il faut recourir à deux, parfois trois, parfois quatre cabinet infirmier en fonction du secteur géographique. Donc tout ça, il a fallu l'appréhender, connaître les besoins pour pouvoir faire des propositions.
Est-ce que ça fait évoluer son propre système de pensée ?
Ah, complètement. Enfin, moi, j'avoue actuellement que je suis même perdu. C'est-à-dire que ça se bouleverse dans ma tête. Je vois bien les propositions qu'il faut faire, mais parfois, c'est facile. On imagine des choses qui ne tiennent pas à 100% compte de leurs choses. Donc oui, ça bouleverse complètement le système de pensée. Et actuellement, j'avoue que c'est pas toujours évident de faire le tri. Voilà, il me faut encore un peu de temps. Je suis loin de la maturité. C'est pour ça qu'on travaille en coopération avec beaucoup d'autres organisations.
Il a 50 balais, Olivier Babel. Enfin, il est là, hein. Et il dit aujourd'hui, je suis perdu.
Ouais. Ben, j'ai 50 ans, mais j'ai passé 20 ans de ma vie en libéral à faire le même exercice pour un milieu donné et dans une organisation qui était facile. Là, je bouleverse, j'ai plus les mêmes interlocuteurs. La vie a changé, la vie après Covid. Et là, actuellement, on voit bien qu'on traverse une époque difficile, donc c'est dur d'avoir des références. I've always known since I was a young boy. In this world, everything's as good as bad. Now my father told me always speak a true word, and I have to say that is the best advice I've had. Because something burns inside of me, it's everything I long to be, and lies they only stop me from feeling free. Whoa, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Whoa, like a hobo. A hobo from a
on est... Ah bah oui, c'était les choix musicaux de notre invité, Olivier Babel. Pardon, j'ai oublié de remettre les micros. Olivier, tu avais choisi quoi déjà, redis-nous.
Like a Hobo,
Charlie Wilson. Ça. Et pourquoi tu avais choisi ça?
Ah, petit clin d'œil, on a parlé du food truck tout à l'heure et il fallait bien lui trouver un nom parce que food truck, on a choisi le Hobo Truck. Et hobo, c'est un petit mot anglo-saxon pour désigner, alors de façon assez péjorative, mais nous on l'assume et même voire on le revendique, le clochard, le vagabond.
I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Le clochard, le vagabond, c'est celui que tu as choisi d'aller à la rencontre dans le prolongement de vos actions de solidarité que vous avez fait entre professionnels de santé. Parce que vous avez dit, là, il y a des enjeux de santé publique qui sont pas toujours couverts. Mais en tant que libéral, tu faisais... C'est pour ça que je faisais ce jeu de mots libéral-libéré. Enfin, tu quitter un univers pour aller vers un autre où il y a moins dans c'est pas de la rémunération que tu vas chercher là, c'est de l'engagement. Comment vous vous regardez dans la glace avec ça? Il y a une certaine fierté quand même, je pense, de rendre à un service mais qu'est-ce que ça éveille en toi et ceux qui ont rejoint le mouvement un petit peu de professionnels de santé, qu'est-ce qui vous habite de faire ça?
Alors la fierté, je sais pas, peut-être qu'on s'empêche de le dire, oui, c'est fier de le faire, mais avant tout, c'est une vraie satisfaction. Ça rejoint profondément. Alors, pour les autres bénévoles, il faudrait leur poser la question, mais pour les gens qui sont en masse dans cette association, et notamment les infirmiers, ça rejoint vraiment, je pense, notre ADN, ce pourquoi on fait ce métier-là. Auparavant, il y a encore quelques années, on avait encore des prises en charge assez complexes, lourdes, où on faisait des accompagnements de A à Z de la personne, sortie d'hospice, fin de vie, etc. C'est de plus en plus rare, puisque maintenant, c'est décomposé par les organismes qui prennent en charge, mais... Quand on suit des gens comme ça, dont le besoin est complètement inassouvi, enfin il y a peu de prise en charge, peu de propositions en matière de soins, ça permet vraiment de se réaliser pleinement dans cet objectif-là. Et en fait, plus que de la fierté, c'est vraiment une satisfaction et une vraie joie de pouvoir partager et puis de mettre au service de ces personnes-là un réseau complet et de travailler en coopération. C'est pas un objectif individuel d'un professionnel de santé comme on peut le travailler tout au long de sa carrière ou de les prises en charge. C'est vraiment appelé, j'ai un souci qui est global, une prise en charge qui est assez complexe et finalement, seul je peux rien faire. C'est mort de toute façon. Il faut vraiment que je puisse interpeller telle personne pour ce sujet-là, une autre sur un autre registre. Voilà, à moi tout seul, je suis incompétent. Par contre, en équipe, là oui, je peux ouvrir le réseau, je peux appeler parce que je connais qui peut intervenir sur un sujet donné, qui peut me trouver une toile de tente, qui peut me trouver tel vêtement, tel médicament ou tel dispositif médicamenteux, telle nuit ou tel hébergement. Enfin voilà, c'est vraiment le travail en équipe plus que la satisfaction individuelle.
Alors, je rebondis un petit peu du coup sur le nom de l'association, Les Bruits du Cœur. Il vient d'où ce nom par rapport à ce que tu viens de décrire? Est-ce que il y a un lien?
Non, en fait,
bruits venus, les bruits du cœur, ça peut être. Enfin, moi, je, en t'écoutant, je me disais, c'est peut-être le lien avec la sauce, parce que il y a les bruits du cœur qui disent la santé, il y a les bruits du cœur qui disent le besoin matériel, il y a les bruits du cœur qui disent la solitude, il y a les bruits du cœur qu'il faut écouter, et on essaye d'apporter des réponses. Alors, il y avait les soins autour de vous, dans votre association, tu le disais, au début, il y avait plutôt le corps médical, et puis ça s'est enrichi d'autres expériences et expertise.
Ouais, complètement. Je suis content de vous entendre dire ça parce que finalement, le mot pourrait correspondre à toutes les définitions que vous en avez fait. Mais pour être très honnête, on a lancé un brainstorming à la fin de la vaccination et c'est une étudiante en médecine à l'époque qui a fait cette proposition-là. Alors il faudrait encore une fois lui poser la question. Je ne sais pas ce qui correspondrait à sa réponse, mais ça pourrait être toutes les propositions que vous avez faites effectivement. Mais oui, l'équipe s'est ouverte considérablement. Voilà, il ne s'agit plus que de professionnels de santé.
Il y a qui alors avec vous? Il y a des enseignants tout à l'heure.
Ouais, il y a des retraités, beaucoup de retraités parce qu'ils ont beaucoup de temps. Il y a des actifs. Alors l'équipe, elle s'est vraiment étoffée parce qu'on a rejoint un dispositif qui est proposé par le CCS de la ville de Nancy sur le dispositif des repas du soir. On assure un soir semaine le repas à table des personnes à la rue. Et là, on a ouvert notre planning du mardi à tous ceux qui voulaient. Et franchement, c'est vraiment une satisfaction parce que on se rend compte que tout le monde a un petit réseau particulier, des compétences particulières, et que ça ne fait que augmenter, upgrader un petit peu ce que nous on sait faire. Enfin, voilà, l'ouverture de l'équipe fait donc il y a des étudiants, des personnes en demande en recherche d'emploi. Il y a aussi des bénéficiaires, il faut le souligner. Hein. Par exemple, maintenant on arrive vraiment à mélanger les genres. Là, il y a encore 15 jours, on a envoyé un conteneur complet de matériel en Ukraine. Il me fallait des bras pour charger le conteneur. C'est extrêmement fatigant, c'était des lits, etc. Et on a 5 personnes qui sont en situation de vie à la rue, à qui on a fait cette proposition-là, qui sont venues nous aider spontanément.
Un troc de compétences.
Exactement.
Olivier, dans les dates importantes, on voit des déclics en fait. Le Covid a été un déclic. Oui. Et de la même façon, 1995, ton entrée dans l'école d'Inf, ça a été un déclic.
Ah oui, complètement.
C'était pas ta voie.
Non. Moi, j'avais fait un bac sciences économiques et sociales. J'étais destiné à rentrer en école de commerce sur Nancy. Et puis, au détour d'un job étudiant, on m'a proposé une place à l'hôpital de Lunéville, comme homme à tout faire, enfin au service de l'entretien. Et puis, ça a été une révélation parce que j'ai rencontré les équipes. J'avais jamais mis les pieds dans un hôpital avant, jamais, même pour ma santé perso. Et j'ai appris ce que c'était, enfin en tout cas, quel était le métier et à quoi ça correspondait d'être infirmière en service, etc. Et je me suis dit, mais finalement... c'est peut-être pour moi. On était au mois d'août, me semble-t-il. Il restait encore une école une école infirmière sur Nancy
où on pouvait
candidater. C'était celle de l'AXOU. J'ai été pris à l'AXOU avec le concours. Je l'ai réussi. Et je pense très honnêtement.
Donc ça en l'espace d'un mois alors.
Peut-être deux mois, le temps de faire le dossier. Et je pense très honnêtement, encore une fois, que c'est le hasard de la vie qui fait bien les choses, parce que si je pense que si ça n'avait pas été cette école-là, avec cette équipe enseignante, là, avec cette approche-là, très ouverte, j'aurais sans doute pas terminé. C'est encore maintenant, c'est une école qui est quand même exigeante au niveau des... Voilà, on prend pas mal de coûts, il faut aller en service, il y a des stages, on est plus proche, à l'époque, on était plus proche de la formation professionnelle que de l'enseignement universitaire. C'est assez exigeant, etc. Et je pense que, voilà, donc je n'aurais pas terminé cette formation-là si ça n'avait pas été à cet endroit-là, c'est sûr.
Mais jamais regretté ce choix qui ressemble presque quand même à... Un coup de tête quand même. Enfin, en tout cas, ça t'est tombé dessus. Quoi.
Ça m'est tombé complètement dessus et j'ai jamais regretté parce que je le dis, c'est une école spécifique, une équipe enseignante très spécifique. Et puis notre promo était une petite promo et ça a été vraiment ce qui a constitué le socle de mes amitiés de vie, hein, de mon parcours de vie. Mes amis sont encore issus de cette génération-là. En tout cas, peut-être pas forcément toujours de l'école, mais aussi du cercle universitaire. Ça a été mes premières armes en termes d'associations étudiantes. D'abord le bureau des élèves, puis les élections au CROUS, puis la Fédération des étudiants d'anciens.
FEDAN et tout.
Ouais, la grande époque. Et c'est là où on a commis nos premières
actions. On va pas tout dire de ce qu'on a commis. Mais... Oui, donc du coup, l'entrée dans la vie étudiante, la voie qui se trace, et puis du coup, un épanouissement.
Complètement.
Plus global aussi. Quoi,
ah ouais, complètement. Je suis rentré, j'ai créé mon cabinet, et puis voilà, j'ai passé les 20 premières années de ma vie tranquille à travailler... Et à développer ma vie personnelle aussi.
Voilà, femme, enfant, les saluts, les 3 enfants, c'est les épouses, tout ça, qui prennent part aussi au bruit du cœur.
Oui, bah complètement. Mon épouse est infirmière aussi, donc elle a la même sensibilité que moi. Et puis les enfants, tout doucement, participent au départ un peu forcé parce qu'il me fallait de la main-d'œuvre. Et à venir essayer, ils commencent à être accros aussi et à participer aux différents dispositifs. Et j'en suis très heureux.
Tu nous l'as raconté un petit peu sur troisième date importante dans ta vie, c'est en 2022 quand on vous fait signe autour de la métropole, des acteurs politiques de la métropole et de la ville de Nancy qui disent on voudrait se mobiliser autour de l'Ukraine, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main à faire le rapatriement sanitaire ? Il leur fallait 2 binômes, médecins, infirmiers, pour aller accueillir les gens, les volontaires au retour sur Nancy, sur place à Lublin, leur expliquer un petit peu, faire un débrouillage. On était encore en époque en pleine crise Covid, donc il fallait aussi dépister les personnes, faire premier travail préparatoire au dossier médical, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé là-bas. Ouais.
Ah, parce que là, on est quelques années plus tard, que ce soit le Covid ou l'Ukraine. Ouais. Quand on le vit, on ne sait pas où on va. Enfin, voilà,
voilà. Moi, je partais un petit peu dans le flou artistique. Je savais que je partais en Pologne. Je n'avais pas connu. Je suis une génération préservée, donc la guerre, tout ça, inconnu, les réfugiés inconnus. Et voilà,
même
ça
Solidarnosc m'a. Qu'on ne connaît pas.
Rien du tout. Voilà. Juste comme ça, quelques films, les rapports des grands-parents, ou en tout cas les explications de texte des grands-parents, mais pas plus.
Et donc, ça part de « on va accueillir et on a besoin de professionnels de santé ». Et aujourd'hui, vous en êtes à combien de voyages ?
Oh, on est au 7e, je ne sais même 7e, plus. Ouais, enfin, voilà. En tout cas, nous, ça fait 6 ou 7 fois qu'on se rend sur le territoire et eux sont venus au moins autant.
Donc là encore, c'est une histoire d'échange. Vous accueillez pour soigner, pour former, pour...
On accueille surtout, là, pour l'Ukraine, plus précisément, c'est vraiment des gros besoins de matériel médicaux. C'est un peu la capacité qu'on a, nous, en tant que professionnels, à collecter ce matériel-là. Voilà, et
donc aujourd'hui, c'est vous qui envoyez. Donc,
c'est ça. On
envoie,
on recense les besoins sur place, on vérifie les besoins, on vérifie les contacts sur place. On a la chance que Nancy soit aussi jumelée avec Vinitia, donc ça aide dans les rapports. C'est deux gros hôpitaux. Voilà, l'idée, c'est de recenser leurs besoins et puis de fournir du matériel à la fois pour les hôpitaux, mais aussi pour les dispensaires ou les petites unités en santé qui sont plus proches du front, qui ont des gros besoins de matériel médicaux.
Et donc là, ça veut dire que qui joue le jeu en local alors de...
Énormément de monde. À la fois plein de professionnels libéraux, notamment des infirmiers, des pharmaciens, qui nous donnent tout le matériel qui est ramené chez eux. Donc il y a énormément de gâchis, ou en tout cas de matériel non utilisé. Beaucoup de prestataires de matériel à domicile, les hospitalisations à domicile, les cliniques qui nous donnent beaucoup de matériel, et puis des particuliers.
Privé, public aussi.
Oui, privé, public, l'hôpital. Enfin voilà, maintenant ça fait un certain nombre de mois, voire d'années qu'on collecte, donc on commence
donc
à être bien identifié.
On sait qu'on peut appeler.
Absolument.
On peut appeler Olivier voilà. Avec ses copains.
Oui, le matériel n'est vraiment plus trop un problème, même si on continue à appeler, à donner. Ce qui nous pose plus de problèmes actuellement, c'est l'acheminement. Les convois coûtent extrêmement cher. Envoyer un semi-remorque, c'est pas loin de 3 500 € pour faire Nancy centre Ukraine. Donc nos grosses difficultés, c'est de trouver des financements
pour
payer.
D'accord. Ouais. Les prochains défis d'Olivier, alors maintenant, c'est
les prochains défis.
Trotte un peu dans la tête. Sans...
C'est ce food truck qui en est au tout début. Il y a une belle montée en puissance puisque chaque samedi, on sert pas loin de 50 repas aux personnes à la rue. Et puis, on rêve d'y associer. Hein, on l'a dit, on a touché du. On a maintenant qu'on a la confiance et le rapport aux gens assez. Enfin, en tout cas, plus facile. Moi, ce dont je rêve, c'est d'une petite unité mobile qui suivrait ces dispositifs-là pour proposer une accroche aux soins, pour pouvoir ramener dans le soin ces personnes qui en sont le plus éloignées. Donc, arriver à conceptualiser quelque chose qui pourrait les accueillir pour un soin de dépannage en urgence, là, tout de suite, sur l'instant, parce que c'est à ça qu'il faut répondre pour après les orienter tranquillement sur une prise en charge, sur le droit commun, tous les autres cabinets, infirmiers, médecins de ville.
Merci Olivier de nous avoir apporté notre dose de feel good aujourd'hui et pour longtemps.
Merci à vous pour votre écoute.